Vous écoutez RTL.
Jérôme Chapuis.
RTL Matin.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Bonjour Sylvie Goulard, merci d'être avec nous dans ce studio d'RTL. Vous êtes engagée, on le disait, depuis plus d'un an auprès d'Emmanuel Macron, qui a publiquement fait votre éloge. On vous dit en effet ministrable. Vous êtes députée européenne centriste et vous avez appartenu il y a quelques années au Modem. Un mot d'abord justement de la colère publique du président du Modem, François Bayrou, après la publication des investitures d'En Marche. Il est furieux de ne pas avoir suffisamment de candidats investi sur cette liste publiée hier de 428 pré-investitures. Il a raison ?
Écoutez, moi, je n'étais pas membre de la commission des investitures. Je fais confiance à Jean-Paul Delevoye pour avoir fait les choses correctement. La seule chose, c'est qu'évidemment, il y a toujours des gens qui ne sont pas retenus. On a eu énormément de demandes. Je tiens à souligner que la méthode était différente. On a eu plus de, je ne sais plus à combien c'est arrivé, 15 000 et quelques candidatures pour 577 postes de députés. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans cette affaire, et ce que je veux souligner à votre antenne, c'est quand même l'extraordinaire renouveau qui est porté. Ce n'est pas éventuellement quelques-uns qui sont en dehors, c'est ceux qui vont porter les couleurs d'En Marche. Quand je vais sur le terrain, je trouve que probablement la plus belle réussite d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir incité des personnes qui étaient assez éloignées de la politique, qui travaillent, qui sont dans des entreprises, qui sont des professeurs, qui sont dans la vie, des agriculteurs, à s'engager pour essayer de porter un renouveau. À mon avis, c'est ça la vraie nouvelle d'hier. Le reste, les querelles d'état-major, ça s'apaisera.
Oui, mais c'est quand même un couac. On se souvient que des quinquennats ont débuté par des couacs qui sont restés dans l'histoire et qui ont finalement un petit peu porté une ombre sur le début d'une présidence. La politique, ça passe aussi par des accords. Emmanuel Macron avait dit qu'il ne ferait aucun accord d'appareil, à une exception près, avec le Modem, qui était venu le soutenir et lui donner un coup de pouce, finalement, à un moment assez décisif. Le renouveau, c'est de ne pas respecter les accords d'appareil, tels que le décrit François Bayrou.
Écoutez, vous savez, dans ces affaires, il faut toujours écouter les deux parties. Personnellement, je n'ai pas d'éléments factuels sur la nature de l'accord. Non, il faut toujours respecter ces accords. Après, le soutien qu'on a pu apporter à un moment donné ne signifie pas qu'on a un droit de tirage éternel sur... Je ne sais pas, franchement. Je crois qu'encore une fois,
vous dites que c'est un peu de la vieille politique. Alors que l'important, c'est qu'on ne voit pas toutes ces personnes qui s'engagent aujourd'hui pour la première fois.
Ben, il me semble qu'en tout cas, sincèrement, ce qu'on a vécu dans cette campagne, c'est une campagne d'une extraordinaire brutalité, avec des candidats extrémistes proposant de mettre en péril le cadre dans lequel notre pays prend ses décisions, qui est le cadre européen, sa monnaie, d'éventuellement mettre en péril nos alliances militaires. Je crois qu'on a une confrontation d'une nature qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent dans la Ve République, et que face à ce péril profond, l'essentiel, c'est de se concentrer sur le travail que vont pouvoir fournir les députés pour faire des choses nouvelles, et je dis bien nouvelles, en matière d'emploi, en matière d'environnement, dans tous les sujets qui intéressent les Français.
Et pour ça, il faut avoir une majorité. Donc, effectivement, l'enjeu quand même des législatives est très important. À ce titre, il est important qu'il tienne, Emmanuel Macron, sa promesse de réunir droite et gauche dans le gouvernement. Faire une recomposition qui permette justement d'avoir une majorité.
Oui, alors, vous savez, moi, je suis membre d'un Parlement, le Parlement européen, dans lequel il n'y a pas de majorité le soir des élections. Donc, c'est peut-être intéressant de regarder comment ça marche dans le cas où il n'y aurait pas une majorité absolue pour En Marche, ce que je ne crois pas. Parce qu'encore une fois, je crois qu'on a de très bons candidats, qu'on a un jeune président de la République qui a été porté par à la fois un vrai élan. Après, il y a aussi des gens, on en est conscient, qui l'ont élu parce qu'ils ne voulaient pas de l'autre candidate. Mais donc, tout ça, je pense que ça va nous apporter une majorité absolue. Cela dit, je crois qu'il faut qu'on sorte de l'illusion dans laquelle nous vivons en France que la confrontation droite-gauche a été bonne pour le pays. Si vous regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons, avec une école qui a des difficultés, avec un taux de chômage bien supérieur à celui de plusieurs de nos partenaires européens, si vous voyez les chiffres du commerce extérieur de la France, je crois que ça peut valoir la peine de changer un peu de méthode.
La confrontation droite-gauche telle qu'on l'a connue a freiné les réformes. C'est ça que vous voulez
dire.
Donc il faut la recomposition. Est-ce qu'il est important qu'Emmanuel Macron nomme des ministres et de droite et de gauche dans le gouvernement la semaine prochaine ?
Le président de la République composera son gouvernement avec son premier ministre comme il l'entend.
Mais effectivement,
Oui, encore une fois, parce que franchement, apprendre à lire mieux aux enfants à l'école primaire, pour moi, ce n'est pas un sujet de droite ou un sujet de gauche. Réduire la dette de manière à ce que nos enfants ne soient pas pour toujours comptables de dépenses de fonctionnement mal calibrées, ce n'est pas un sujet de droite ou de gauche. Je vous dis, il y a un intérêt national. Ça m'amuse de les voir tous chanter la Marseillaise sur les estrades, vous savez, dans les meetings. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils font pour la nation, vraiment? Est-ce qu'ils retroussent leurs manches et ils vont travailler ensemble, ou est-ce qu'ils s'opposent de manière assez stérile, la posture des uns, je dirais, confortant la posture des autres, et chacun a sa petite clientèle, comme ça.
Et nommer des têtes nouvelles au gouvernement, encore un mot sur l'équipe dont on attend la liste, c'est important aussi, ou c'est une prise de risque?
Vous savez, je crois qu'Emmanuel Macron a montré que le risque, parfois, c'est payant. Je crois qu'il y a des risques qu'il faut savoir prendre. Et puis ensuite, bien entendu, il y a l'art de composer une équipe. Une équipe, c'est des talents différents réunis. Et je crois que le pays a besoin que la France se réunisse et pas que les gens se divisent, ni d'ailleurs qu'on oppose les générations les unes aux autres. De l'expérience peut être utile aussi.
Le gouvernement n'est pas encore nommé. Et déjà, on sent monter un procès sur la méthode des ordonnances pour faire passer la réforme du Code du travail, qui sera l'une des priorités du président Macron. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire que déjà monte cette colère? Il y a des pétitions qui circulent contre la loi travail 2. Il y a la CGT qui prend position de façon extrêmement radicale. La CFDT qui dit attention, pas d'ordonnance.
Alors je crois que d'abord, l'essentiel, ça n'est pas la procédure, c'est le problème que la France affronte. Nous avons un chômage, notamment des jeunes, des seniors et des chômeurs de longue durée, qui est bien supérieur à ce qu'il est dans d'autres pays de la zone euro et de l'Union européenne. Je le dis bien parce qu'on a entendu pendant la campagne, en quelque sorte, que le chômage, c'est la faute à l'euro. Non, c'est la faute, enfin, la raison du chômage en France, ce sont des causes qui sont françaises. Première chose. Deuxième chose, je crois qu'il faut bien entendu accorder au dialogue social toute la place qu'il mérite et au débat parlementaire aussi toute la place qu'il mérite. Ce sont des éléments importants de la vie dans une société. Après, comme vous le dites vous-même, on observe peut-être aussi des tentatives d'obstruction ou des tentatives de prise d'otage par certains groupes.
Ça vous inquiète pas ?
Ça m'inquiète, mais ça m'inquiète surtout pour les chômeurs. Ça m'inquiète surtout pour les gens auxquels on n'apporterait pas de solution. Ce qui est très important, c'est qu'on arrive encore une fois dans ce pays à prendre des mesures qui doivent être débattues, mais qui devraient être débattues comme elles le sont dans la plupart des démocraties, c'est-à-dire dans les enceintes dans lesquelles on peut discuter.
Oui, mais enfin, la France est la France. Gouvernée par ordonnance, c'est antidémocratique, disent déjà les adversaires de la méthode. C'est important, la méthode. Ségolène Royal, il y a 3 jours, qui a quand même une certaine expérience gouvernementale, est venue le rappeler au président Macron.
La méthode compte, mais je ne permets pas de dire qu'une procédure qui est inscrite dans la Constitution... Il faut bien le dire aux Français. Les ordonnances, ce n'est pas Emmanuel Macron qui s'arroge des droits comme un dictateur autoritaire.
Mais vous avez perçu le traumatisme quand même que ça a été dans le débat public, la loi El Khomri ?
Bien sûr.
Par le 49-3 ?
Bien sûr. Mais le 49-3, ce ne sont pas les ordonnances non plus. C'est là qu'il faut être très précis. L'article 38 de la Constitution dit que la possibilité existe pour le Parlement... sur des sujets sur lesquels on souhaite aller vite, et je crois que tous les gens au chômage qui nous écoutent n'ont pas forcément envie d'y rester beaucoup plus longtemps, qu'on a une habilitation qui est donnée par le Parlement et une validation qui est faite par le Parlement. Ensuite, le président de la République décidera, lorsqu'il sera en fonction. Cette semaine, on est dans une situation un peu bizarre. Il n'a même pas pris ses fonctions, si j'ose dire, il décidera.
Mais face à ces blocages, en quoi la recomposition politique, qui est peut-être à l'œuvre, est une arme ?
Ben justement, pour nouer ce dialogue, pour ne pas être dans des postures où les uns et les autres s'affrontent en défaisant ce qu'a fait le gouvernement précédent, c'est d'essayer de trouver ensemble des solutions dans l'intérêt des Français, et là notamment, je dis bien, des gens qui sont au chômage.
Jean-Claude Juncker, qui préside la Commission européenne, a lancé un message de bienvenue cette semaine au président élu, en lui rappelant les risques auxquels s'exposait la France si elle ne parvenait pas à maîtriser durablement ses dépenses public et à réduire son déficit. Il a joué les pères fouettards dès le départ, on va dire. Il a eu raison.
François Langlais vient de très bien le dire. Il a dit, la Commission est dans son rôle. La Commission est là pour veiller à ce que tous les partenaires européens respectent leurs engagements. Je crois que les Français ne savent pas que nous sommes parmi les derniers États, de toute l'Union européenne, à être dans la procédure de déficit excessif.
Non mais vous savez, c'est comme ça qu'on fait aimer l'Europe.
Si vous me laissez terminer, je vais essayer de la faire aimer.
Oui,
Non, mais il est quand même absurde de considérer que l'augmentation du déficit et de la dette est forcément une bonne chose pour le pays. S'il suffisait de faire de la dépense publique pour être performant, la France, qui a le taux le plus élevé de dépenses publiques de toute l'Union européenne, 56%, devrait être une sorte d'Eldorado. J'observe que notre pays a des performances, et encore une fois avec des conséquences précises pour des catégories d'individus comme les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi, qui sont des conséquences dramatiques. Ça n'est pas parce que vous dépensez de l'argent public à tout va que vous faites du bien à votre pays.
Les pays qui ont le moins de dépenses publiques sont les pays qui vont mieux, c'est ce qui marche le mieux économiquement, c'est ce que vous nous dites.
Donc, je dis qu'un certain nombre de pays qui ont entrepris ce genre de réforme, je pense par exemple à l'Espagne ces dernières années, sont des pays qui sont sur des qui ont des croissances plus fortes.
En même temps, le commissaire européen français Pierre Moscovici lançait lui aussi un message au président Macron, président élu, en lui disant faut pas oublier les perdants de la mondialisation. Ce sont deux messages qui se percutent. Réduire les dépenses publiques et s'occuper des perdants de la mondialisation qui sont exprimés de façon spectaculaire dans les urnes, hein, dimanche dernier.
Mais l'un n'empêche pas l'autre, puisque nous avons encore une fois un niveau très élevé de dépenses publiques et des gens mécontents.
Oui.
Non mais je vous dis, s'il suffisait de dépenser à tout craint pour que les gens n'aient pas le sentiment d'être abandonnés, la France a le niveau de dépenses le plus élevé. Je crois que ce que les gens voudraient, c'est qu'ils aient des emplois stables et c'est qu'il y ait des perspectives pour eux. Et ces perspectives pour eux, ça n'est pas uniquement par la dépense publique qu'on les crée.
Sylvie Goulard, merci d'avoir été avec nous. Le gouvernement sera nommé la semaine prochaine. Vous parlez quatre langues. Emmanuel Macron a dit publiquement que vous étiez une femme remarquable avec laquelle il souhaitait travailler dans les 5 années qui viennent. Et vous ? Vous souhaitez travailler avec lui à
Emmanuel
Paris.
Emmanuel Macron est absolument remarquable. C'est pour ça que je l'ai soutenu pendant un an et qu'on a fait une campagne très dure. Mais pour le reste, la réponse lui appartient.
Vous
elle ne m'appartient pas. La réponse ne m'appartient pas.
Et la visite avec Angela Merkel la semaine prochaine, ce sera son premier déplacement diplomatique, on va dire, après sa visite auprès de nos troupes sur un territoire extérieur. Ce sera lundi, mardi. Vous pouvez nous donner une information.
Non, la date, je dirais à 24 heures près, ça importe peu. Ce qui est très, très important, c'est qu'il puisse discuter avec les Allemands de manière à sortir effectivement de cette vision de l'Europe tout à fait triste qu'on nous a donnée ces dernières années et pour lancer des projets ensemble. Mais tout ne se fera pas d'ici mardi matin non plus, il faudra un petit peu de temps.
La discrète et prudente Sylvie Goulard au micro d'RTL ce matin. Merci d'avoir été dans ce studio d'RTL, merci à vous.
Merci à toutes les deux, puis un entretien bien sûr à retrouver comme tous les jours sur le site rtl.fr.